émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 1000 000ème, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC, des syndics de copropriété. Et aujourd'hui, on va parler copropriété encore avec Jacques Baudrier. Bonjour Monsieur Baudrier.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes adjoint au logement de la mairie de Paris, transition écologique du bâti. Vous êtes au conseil municipal de la mairie de Paris depuis 2014, mais vous êtes un élu d'arrondissement, 20e arrondissement. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui avec vous de rénovation des copropriétés, mais on va parler également de surélévation, on va parler de Airbnb. Voilà, on a 25 minutes pour aborder tous ces sujets. Et en premier lieu, je voudrais qu'on parle de la surélévation. Il s'est passé quelque chose là, enfin la mairie de Paris par rapport au PLU bioclimatique. Vous êtes engagé sur la surélévation, c'est quelque chose qui vous plaît. Quel est l'engagement de la mairie de Paris? Hein, surélévation, on parle de rajouter un ou deux étages sur un immeuble existant.
Le plan local d'urbanisme bioclimatique a été voté au mois de juin dernier, dont la version définitive sera votée au mois de décembre, prévoit de réserver beaucoup d'espace pour végétaliser la ville, pour qu'il y ait plus de pleine terre, d'espace vert, y compris pour mieux s'adapter au réchauffement climatique, pour que Paris soit une ville beaucoup plus végétale et plus fraîche, ce qui est un enjeu de santé publique majeur. Mais il faut bien sûr, donc ça enlève des perspectives de constructibilité, mais en contrepartie, parce que évidemment l'enjeu de loger les gens est essentiel, donc les règles pour la surélévation, pour les surélévations d'immeubles, pas des très grosses surélévations, on peut dire la surélévation douce, un ou deux étages comme vous le disiez, ont été un peu distendues, donc ce qui va permettre de rendre possible plus de surélévation, en particulier dans les tissus modernes, où là, les règles seront encore nettement plus ouvertes. Donc voilà, il y aura normalement, à partir du mois de décembre, plus de possibilités de surélever qu'aujourd'hui.
Vous avez un objectif, une idée de chiffre en tête du nombre d'immeubles qui seraient éligibles?
Alors, l'atelier parisien d'urbanisme avait fait une étude évaluant entre 5 et 10% de nombre d'immeubles qui peuvent être surélevés. Mais dans la vraie vie, on s'aperçoit que du fait des vues, enfin, c'est beaucoup moins que ça, hein, par rapport aux 60 ou 70 000 immeubles qu'on a à Paris. Ça sera nettement moins que 5%, peut-être 1 ou 2% maximum. Mais c'est déjà important. Et par exemple, pour nos objectifs de production de logements sociaux, on se dit qu'actuellement, il y a environ 150 logements par an qui sont produits comme ça. On pourrait assez facilement, je pense, arriver à 400 ou 500 logements par an à produire via de la surélévation.
Donc aujourd'hui, politiquement, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des résistances écologiques par rapport à ces surélévations d'immeubles qu'on verrait d'un mauvais œil?
Dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont peur de surélévations massives, donc de monter de 3 à 4 étages, enfin de façon très violente, mais ce n'est pas du tout le choix qui est fait. Et d'ailleurs, on voit dans la vraie vie ce qui se passe. Et on a un bailleur social, un petit bailleur social qui s'appelle HSF, qui a étudié comment, de façon exhaustive, comment surélever l'ensemble de son parc. Et on voit les surélévations, parfois les épaississements de bâtiments qu'il a réalisés, qui représentent un volume non négligeable. Il en est à 200 logements alors qu'il a un parc de 5000 logements, donc c'est 4% en plus, c'est beaucoup. Mais c'est à chaque fois, c'est des surélévations extrêmement discrètes. Un étage ou deux étages, ou un étage sur une partie juste d'un immeuble. Donc voilà, et d'ailleurs, on n'entend pas parler, ça se fait de façon discrète, puisque ça ne soulève pas de problème dans le voisinage. Donc notre partie, c'est de surélever vraiment de façon très pointilliste, un petit peu, sur quelques immeubles, un petit peu. C'est à l'échelle globalement de la ville, ça sera sur 20 ans peut-être 10 000 logements en plus, c'est moins de 1% de logements en plus à l'échelle de Paris. Donc c'est vraiment pointilliste un tout petit peu. Mais néanmoins, comme on a moins de capacité à construire en pleine terre, parce qu'on préfère végétaliser, ça va nous permettre de répondre aux objectifs de production de logements de façon non négligeable.
D'accord, et puis je rappelle que ça permet également de régler le problème de la rénovation de vieux bâtiments, puisque en copropriété, les syndics le font. Effectivement, c'est à peu près 5% d'un portefeuille. Une surélévation permet de financer par le promoteur aérien qui rachète le droit à construire la rénovation entière du bâtiment, sa remise sur pied, en tout cas au moins les façades, etc.
Bien sûr, et la surélévation, bah, ça permet d'isoler. Je pense que le danger en cas de canicule est concentré sur les derniers étages. Hein. 75% de l'apport solaire en cas de canicule, c'est le dernier étage. Donc, la surélévation, bah, ça permet, par construction, bah, d'isoler parfaitement le bâtiment. Et il y a des méthodes de surélévation maintenant, des technologies où voilà, c'est des matériaux déjà pré-préparés. Il y a très peu des chantiers très peu impactants. On arrive à faire les choses bien et à des coûts aussi tout à fait acceptables. Et ça permet de financer les rénovations des copropriétés. Et donc, évidemment, comme notre objectif, c'est de rénover 100% des immeubles de Paris, on y est très favorable et on l'encourage fortement.
Alors, une volonté politique, c'est bien noté. Et d'ailleurs, vous avez un relais, hein, un organisme sur la mairie de Paris qui s'appelle l'APC, l'Agence Parisienne du Climat. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots son rôle ?
C'est un opérateur qui agit sur un certain nombre de champs liés au climat, mais pour ce qui est dans mon champ, le logement, la transition écologique du bâti, et c'est le gros boulot de l'APC, c'est d'être notre opérateur qu'on finance pour accompagner l'ensemble des copropriétés de Paris, les 45 000, pour rénover les immeubles. Et ça démarre depuis 2016 avec la plateforme Coach Copro qui a été lancée par l'APC. Et depuis qu'on a voté mi-2022 une nouvelle aide, il y avait déjà une aide de 2016 à 2022 qui s'appelait Éco-Rénovons Paris. Et là maintenant, c'est la deuxième étage, la deuxième saison d'Éco-Rénovons Paris. On l'appelle Éco-Rénovons Paris Plus. Donc c'est une aide financière beaucoup plus importante pour les copropriétés et qui touche quasiment toutes les copropriétés maintenant. Donc on voit l'activité de la résidence parisienne du climat explose et donc il y a une accélération extrêmement forte de la rénovation des copropriétés et on en est très satisfait.
Alors ils travaillent main dans la main en lien avec les syndics de copropriétés, avec les gestionnaires de copropriétés. Est-ce que pour vous les syndics font le job ? Est-ce que vous pensez que les politiques s'appuient suffisamment sur les syndics, cet agent pivot dans l'immeuble ?
C'est très important nous, d'avoir de très bonnes relations et travailler en partenariat avec les syndics. On réunit l'ensemble des acteurs de la profession régulièrement pour donner des nouvelles de l'avancée de la rénovation du parc. Là, on en est à 10 000 copropriétés qui sont inscrites sur la plateforme de l'Agence Parisienne du Climat. Je le dis aux 35 000 autres qui ne sont pas encore inscrites, mais on en était seulement à 5 000 il y a un an. Donc voilà, il y a une accélération massive là, mais... Et les syndics doivent et peuvent être notre relais. On a signé une charte sur l'éco-rénovation avec trois organismes, dont le vôtre.
Tout à fait, UNIS, FNAIM, ANGC.
Donc je vous en remercie. Donc notre but, c'est d'être vraiment vos partenaires. Alors, on organise énormément de grandes réunions publiques pour tous les copropriétaires d'un arrondissement. Il y en avait encore une dans le 14e la semaine dernière, il y en a une dans le 6e cette semaine, il y en a une dans le 20e bientôt, il y en a une dans le 15e il y a 3 semaines. Donc il y a souvent des copropriétaires qui disent du bien de leur syndic, d'autres moins de bien. Ben, notre but, c'est que tous les copropriétaires soient satisfaits de leur syndic et que tous les syndics nous les accompagnent bien et nous accompagnent dans la rénovation de leurs immeubles parce que c'est le grand chantier aujourd'hui. Les canicules en 2030, un des témoignages, ce sera l'été de 2003. En 2003, il y avait eu 10 000 morts en France, 1 000 morts à Paris. Notre but, c'est de rénover le maximum d'immeubles le plus vite possible. C'est bon pour le climat, pour consommer moins d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat, mais c'est aussi et surtout bon pour la santé publique, parce qu'il faut qu'on adapte nos deux bâtis au réchauffement qui arrive malheureusement très vite.
Alors justement, là on rentre un peu dans le concret, on parle de rénovation des copropriétés. On voit bien que sur les vieux bâtiments, donc le patrimoine ancien, antérieur à 48, hein, donc pas les immeubles des 30 Glorieuses, les immeubles d'avant, ça s'embarque pas trop, pas massivement, en tout cas dans la rénovation énergétique, je le vois sur mes immeubles. On parle pas que des immeubles haussmanniens, on parle du patrimoine ancien en général. Ça veut pas dire qu'ils font pas de travaux, mais ils ne font pas de rénovation globale. Quel est votre regard ? Est-ce que vous le constatez ? Pour vous, quels sont ces freins ? Pourquoi ces immeubles ne font pas de travaux ?
Alors. Pourquoi ? Donc nous, maintenant qu'on a augmenté très fortement le nombre de copropriétés inscrites au Coach Copro, on augmente aussi parce qu'on finance avec un chèque audit. Donc on a financé plus de 1500 chèques audit, dont 1000 l'an dernier. Donc ça explose. On a un certain nombre de copropriétés qui vont s'engager dans des travaux qui sont inscrites à Éco-Rénovons Paris, donc qui passent au stade d'après. Donc on voit le nombre de chantiers va exploser. On a aujourd'hui 2500 logements en copro en chantier à Paris en rénovation globale. On devrait en avoir d'ici 2-3 3 ans, plus de 12 000. Donc ça est multiplié par 5. Donc on voit qui est en train de progresser et s'engage des travaux. Et comme vous le dites, le constat est clair, ceux qui s'engagent, c'est plutôt les grosses copropriétés avec beaucoup de propriétaires occupants et qui ne sont pas forcément et plutôt récentes, des années 50, les 30 Glorieuses, celles dont vous parliez, et pas les petits immeubles plus anciens et qui sont souvent les passoires thermiques que, où il y a des propriétaires bailleurs, des locataires et dont des logements vont être interdits de relouer. Alors pourquoi ça avance moins vite dans ce secteur-là ? Alors déjà, nous, on le sait parce que Paris est sans doute la ville qui a... On apporte une aide financière au moins aussi importante que celle de l'État avec ma prime de copropriété. Donc, les copropriétaires parisiens ont la chance, ont une chance que n'ont pas tous les autres de France, c'est qu'ils ont deux fois plus d'aide. Donc, évidemment, il y a plus de copropriétaires qui s'engagent quand il y a deux fois plus d'argent et de moyens pour les aider. Normal. Donc, nous, on a cette expérience que les autres n'ont pas. Et d'ailleurs, je pense que là, j'ai rendez-vous bientôt avec le directeur de cabinet du ministère du Logement pour lui donner ce ressenti, ce retour. Qu'on a eu assez récemment. Eh bien, pourquoi ? C'est parce qu'on voit bien le financement qu'on apporte aux copropriétés. Dans nos réunions publiques en mairie d'arrondissement, on a eu jusqu'à 600 personnes à la mairie du 15e. Donc, moi, j'ai déjà parlé à des milliers de copropriétaires. Donc, voilà. Le niveau d'aide et de financement qu'on apporte est absolument central. Donc, quand une rénovation globale d'une grosse copropriété, ça va venir à 30 000 euros par logement. Quand vous avez ma prime rénov' copropriété qui vous en donne 9 000, quand vous avez l'aide de l'État, l'aide de la ville, Écorénon Paris, plus l'exonération de taxes foncières décidée par Anne Hidalgo, vous arrivez à près de 18 000, 20 000 euros de cofinancement, 15 à 20 000, ça vous finance plus de la moitié de votre chantier. Donc là, évidemment,
ça devient intéressant.
Ça embarque beaucoup de monde. Quand vous avez un petit immeuble où forcément le coût par logement, comme il y a moins de logements, est plus élevé, en plus qu'il est F ou G, donc c'est un ancien, donc pour sortir de passoire thermique, il faut investir encore plus, votre investissement est de 40, 50, 60 000 euros par logement. Aujourd'hui, avec les modes de calcul, vous avez la même aide, 15 à 20 000. Donc 15 à 20 000 sur 30 000, c'est très intéressant. 15 à 20 000 sur 60 000, c'est nettement moins intéressant. Et en plus, comme ces petits immeubles anciens, c'est souvent des propriétaires bailleurs qui n'habitent pas dans ces logements, ils sont logiquement plutôt assez moins motivés. Donc on a un vrai sujet de comment on fait pour embarquer les propriétaires de ces petits immeubles, souvent des passoires thermiques, souvent des logements qui vont sortir du parc locatif privé. Parce que le problème, c'est que l'État a défini la loi Climat et Résilience en 2021, avec des aides, ils ont défini une règle pour interdire de relouer, mais avec des niveaux d'aide qui, à l'époque, et qui ont augmenté, mais qui sont toujours beaucoup trop faibles. Donc, en gros, il y a le bâton, mais la carotte est beaucoup trop petite.
Oui, donc le bâti ancien est pénalisé. Et on parle du reste à charge. On parle toujours du reste à charge.
Et 2 à 3 fois plus aisé. Donc, voilà. Donc,
l'argent.
Donc, l'argent. Donc, nous, clairement, moi, ma demande, et j'ai écrit au ministre du Logement pour ça, et là, je vois son directeur de cabinet cette semaine, c'est de dire, il faut que les règles de financement ne soient pas les mêmes pour les logements passoires thermiques qui sont souvent massivement ces immeubles anciens, c'est les mêmes.
Et alors, il y a l'argent bien sûr, mais techniquement, on parle de patrimoine, on parle des ABF, des architectes des bâtiments de France. La question qu'on peut se poser sur certains bâtiments, c'est est-ce que quand on voit une façade haussmannienne, est-ce que ces immeubles-là sont éco-compatibles ? Est-ce qu'on peut vraiment faire une rénovation énergétique de ces immeubles-là ?
Alors, je terminerai par la revendication précise que j'ai portée au ministre pour qu'on arrive à rénover, et je pense que c'est la clé pour qu'on arrive à rénover tous les immeubles de Paris, c'est qu'il faut que l'aide de l'État à ma prime rénov' copropriété, elle est calculée sur 25 000 euros de plafond. Dans la vraie vie, c'est plutôt 60 000, donc il faut qu'au moins cette aide soit calculée sur 50 000 au lieu de 25 000. En gros, il faut doubler pour les F et G, les E, F et G, le niveau d'aide. C'est ma revendication, j'espère qu'un certain nombre d'acteurs, si vous, comme la FNAIM ou l'UNIS, pouvez les partager, surtout n'hésitez pas, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver, et c'est un enjeu de santé publique majeur. Donc voilà, ça c'est la revendication. Après, est-ce qu'ils sont éco-compatibles ? À Paris, on a une grande chance, c'est que depuis 2009, notre équipe municipale a lancé la rénovation du parc social. Donc on a les logements qui ont été le plus rénovés de France et de très loin, c'est les logements sociaux de Paris. Donc on a maintenant un bilan, on a déjà financé 60 000 rénovations de logements. Donc en gros, autant pour rénover toutes les copros, tous les logements privés de France, il faudrait qu'on accélère le rythme de façon énorme. Là, on va passer de 2 000 à 12 000 par an, mais il faut que d'ici 10 ans, on soit à 40 000 par an pour rénover tous les logements privés. En logement social, on est à 5 000 par an, mais il n'y a plus besoin qu'on accélère. On est déjà au bon rythme et on en a déjà livré un paquet. Et donc, on a l'expérience maintenant de est-ce qu'on y arrive ou pas ? Est-ce que tous les immeubles sont éco-compatibles ? Parce que des logements sociaux, il y a de tous les types, mais il y a aussi dans le haussmannien des briques rouges des années 50. Et en gros, malgré les ABF qui, c'est vrai, interviennent ou nous font évoluer des projets dans 30% des cas à peu près, on y arrive toujours, quelle que soit la typologie d'immeuble. Si on ne peut pas isoler par l'extérieur, on isole par l'intérieur, on isole les murs pignons derrière, on y arrive toujours. Et on voit qu'en termes d'économie d'énergie, on a fait une étude de l'atelier parisien d'urbanisme sur la rénovation du parc social. Je vous invite, elle est disponible, www.apur.org. C'est la première étude de France de bilan des rénovations énergétiques. C'est la quatrième mondiale. Après, il y en a une aux États-Unis, une en Angleterre, une en Allemagne. Et puis, voilà, notre étude française, c'est celle sur le parc social parisien. Ben, les seules qui ont été rénovées. Eh bien, on prouve d'ailleurs que nos résultats sont plutôt meilleurs que dans les trois autres pays. Donc, a priori, à Paris, c'est même là où on rénove les logements de la façon la plus efficace au monde. C'est l'année des JO. Je pense que nos logements sociaux ont la médaille d'or de la rénovation. Donc, je me permets de le dire. Et parce qu'on a eu des résultats de ces études, on sait faire tous les immeubles et en plus, on sait bien faire.
Alors, il est vrai que si les ABF, les architectes des bâtiments de France, hein, je rappelle à nos auditeurs qui donnent leur avis hein, pour la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable, sur un ravalement notamment, sont souvent scrupuleux sur la protection du patrimoine. Et heureusement, les propriétaires aussi hein, tiennent à conserver un peu le visage de leur immeuble et de la ville. S'il y a des solutions ou des techniques, des procédés, on parle de ravalement, chaud, chambre, etc. pour les vieux immeubles, qu'on ait des directives, des consignes claires qui viennent des ABF que nos maîtres d'œuvre puissent intégrer dans leurs études et leurs appels d'offres. On va changer de sujet et vous l'évoquez, les Jeux Olympiques. Je voudrais qu'on parle un petit peu des locations touristiques meublées, Airbnb, qui devient un mot générique, location Airbnb, bien que ce soit une marque. C'est un sujet récurrent depuis 10 ans. Aujourd'hui, ça s'accélère. De plus en plus de logements sont loués via cette plateforme. C'est un enjeu logement pour vous, pour la mairie. C'est un enjeu tranquillité et vie en communauté dans les copropriétés que nous gérons. Beaucoup de tensions, beaucoup de crises. Alors les syndics, les copropriétés essayent de lutter contre le phénomène, un fléau même, avec les moyens du bord que sont le règlement de copropriété. Est-ce que la mairie de Paris, qui a aussi son rôle à jouer, s'en sort avec ces interdictions, la chasse au Airbnb ? Est-ce que vous allez prendre de nouvelles mesures ? Une nouvelle loi vient de sortir qui permet aux communautés de prendre de nouvelles mesures restrictives. Quelle est votre politique sur ces Airbnb ?
Alors, ça fait, comme vous le dites, 10 ans, mon prédécesseur Yann Brossa, qui est communiste comme moi, s'est engagé justement pour se battre pour conserver le maximum de logements sur le marché collectif. Aujourd'hui, les Airbnb illégaux, on estime que c'est 25 000 logements à Paris. Nous, on l'estime à 25 000. L'État a fait aussi une estimation de son côté. Ils ont dit 24 000. Donc, vous voyez, on est... Voilà. À savoir que ce n'est pas notre plus gros problème pour le logement. Le plus gros problème, c'est les logements vides, les résidences secondaires. 270 000 logements vacants, résidences secondaires. Donc, notre sujet du point de vue du logement... C'est il y a 25 000 personnes qui louent de façon frauduleuse pour gagner trop d'argent des logements, mais on a surtout 200 000 qui ne gagnent pas d'argent et ne louent pas leur logement. C'est ça le plus gros problème, c'est les gens qui ne gagnent pas d'argent. Donc pour tous les copropriétaires qui sont là et qui ne louent pas leur logement, louez-le, il y a de moins en moins de logements à louer à Paris, c'est un vrai sujet, donc je vous invite à gagner de l'argent en le louant. Voilà, donc c'est juste, et c'est le premier conseil que j'ai à donner. Donc vous voyez, c'est une incitation qui n'a pas pour but
de... À condition qu'il ne soit pas en G ou en F. Pas encore.
Et s'il est en G ou en VEF, vous êtes à Paris et c'est la mairie de Paris qui va vous offrir le plus d'argent pour vous aider faire les travaux avec l'aide de l'État de France. Donc vous êtes au meilleur endroit pour recevoir le plus d'aide possible. Et on se bat pour vous en ayez encore plus. Donc vous voyez, on fait tout possible pour vous aider à louer votre logement et à gagner de l'argent. Alors Airbnb, donc 25 000 logements, c'est évidemment une bataille énorme. 25 000 logements loués illégalement. Donc on dit Airbnb parce que 95% des meublés touristiques sont sur Airbnb. Voilà, donc c'est massif. Le sujet, c'est qu'on a un arsenal qui a été mis en place de longue date par la ville, qui fait des procès. On a une équipe de 35 personnes à plein temps qui instruisent des dossiers, qui vont contrôler sur place, sensibiliser. Donc je participe avec ma collègue Barbara Gomez, qui est conseillère déléguée avec moi sur ces sujets pour, voilà, Donc on a tout l'arsenal qu'on maîtrise bien. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de jurisprudences qu'on instance un certain nombre de procès à des propriétaires frauduleux, qui sont nombreux malheureusement, et qui fait que ces jurisprudences qui nous sont défavorables fait qu'on ne gagne pas et de loin assez de procès pour réussir à faire reculer ces pratiques illégales. Et donc un projet de loi transpartisan a été présenté. Nous avons été auditionnés, comme un certain nombre d'autres communes de la Côte d'Azur, du Pays Basque, des Côtes Bretonnes, des Alpes, voilà. Alors des communes d'ailleurs qui, alors c'était pas les maires de la Côte d'Azur, dans les Alpes, il y avait peu de maires communistes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'était que des maires qui avaient des discours aussi très sur le contrôle public, qui n'en peuvent plus des meublés touristiques ou des logements vacants, mais qui n'ont pas engagé encore tout l'arsenal juridique que nous avons mis en place. Et donc on leur a expliqué, nous, les difficultés, le jour où ils auraient réussi à arriver à notre niveau, qu'il y avait encore pas mal de difficultés.
Paris est déjà à la pointe. Enfin, Paris est Paris. Hein.
Paris est Paris. Donc, ça les a un peu affolés, mes collègues maires de Megève, Chamonix et d'autres. Voilà. Parce qu'en gros, ils n'étaient pas au bout de leur peine, ils ont compris. Mais la loi qui a été votée depuis, parce qu'on a été auditionnés, et je remercie les deux députés, Anaïs Glemmer et puis Inaki et Chanis, qui nous ont auditionnés, a été très fortement enrichie de nombreux amendements qu'on a proposés en tant que ville de Paris. On a proposé 17 amendements, et les deux rapporteurs ont réussi à en faire adopter par le gouvernement 12. Donc en gros, une grande partie de la loi en fait est le produit de nos expertises. Et donc cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale très largement. On attend qu'elle soit transmise au Sénat. Ça tarde un peu. Le plus vite sera le mieux. Et le jour où elle sera votée, notre arsenal pour faire respecter la loi sera beaucoup plus efficace. On a fait condamner 100 propriétaires frauduleux l'an dernier. Avec une telle loi, on en pourrait au moins 5, peut-être 5 à 10 fois plus. Donc en gros, si cette loi est passée et que les décrets sont passés, on va gagner beaucoup plus de procès, on va faire reculer de façon importante les Airbnb illégaux. Bien sûr, les légaux qui louent moins de 120 jours par an, des résidents privés, il n'y a pas de problème.
Justement, la loi permet-elle pas d'abaisser ce seuil de 120 jours ?
Si, 220 jours à 90 jours.
Vous allez le faire ? Après
alors
les JO,
ça je laisse le, ça sera
décision.
Ça sera des décisions une fois que la loi sera votée. Enfin, une fois que la loi sera votée, évidemment, on va accélérer. Surtout, on va accélérer les contrôles et puis on prendra un certain nombre de décisions. C'est la maire de Paris qui les annoncera. C'est pas à moi de le faire aujourd'hui, mais comme vous avez remarqué, c'est inclus dans la loi, en effet. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, cette loi, à l'échelle de 10 ans de bataille contre les meublés touristiques illégaux, si enfin elle est votée, les règles de l'application sont mises en œuvre, ça, c'est un moment historique pour toutes les copropriétaires qui en ont marre d'avoir des Airbnb illégaux dans leur immeuble. Là, aidez-nous, poussez, écrivez au Premier ministre, au Président de la République pour que cette loi soit enfin votée définitivement au Sénat et on va enfin gagner la bataille.
Alors, ils en ont marre des Airbnb illégaux, mais ils en ont marre aussi des Airbnb légaux, hein, et des nuisances qui sont générées. C'est vrai qu'on n'a pas quasiment plus un seul immeuble où on n'a pas un petit Airbnb au rez-de-chaussée, au dernier étage. Et le problème, ce sont les nuisances. Et surtout, quand on écoute les copropriétaires en parler en assemblée, parce que souvent c'est un peu chaud, et puis c'est un sujet qui devient récurrent, comme le local à vélo ou l'âge de la concierge. Vous savez, il y a des sujets qui reviennent maintenant systématiquement, ça en fait partie. C'est le problème des nuisances, mais aussi le sentiment que l'immeuble est un peu ouvert, que c'est un peu l'auberge espagnole et qu'on n'est plus vraiment dans du résidentiel, le petit cocon chez soi, l'immeuble où on dit bon, où on connaît tous ses voisins. Et là, c'est vrai que c'est plus le cas. Dernière question, on est toujours sur les JO, ça y est, on y est là. Est-ce que ça s'annonce bien ? J'espère, on imagine que ça s'annonce bien. Est-ce que vous avez des consignes particulières à faire passer aux propriétaires, aux copropriétaires parisiens, à part de profiter de l'événement, bien sûr.
Bon, a priori, oui, il n'y a pas de particulier. On voit une augmentation pas aussi importante qu'on l'aurait cru, disons, des adresses sur l'immeuble touristique. Donc, on espère bien que le nombre d'Airbnb égaux ne va pas augmenter. Après, éventuellement, on pourra limiter le nombre de jours ensuite. Enfin, voilà, a priori, ça se passe bien. On n'a pas d'inquiétude particulière. Quelque chose, évidemment, on a quelques cas de propriétaires qui rompent de façon illégale leurs baux à leurs locataires pour bénéficier de façon illégale, pour bénéficier de loyers beaucoup plus importants. On leur rappelle que c'est illégal et que la ville de Paris sera extrêmement attentive à faire respecter l'égalité et qu'on a ouvert une plateforme, un numéro, une ligne directe auprès de la DIL pour que les locataires viennent protester. Donc voilà, on a vu une augmentation du taux des congés-ventes frauduleux ces derniers mois, donc c'est la petite alerte qu'on a, mais on est extrêmement vigilant.
Alors Paris, et puis on terminera là-dessus, moi je suis un Parisien, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Paris perd des habitants hein, chaque année, vous incitez les particuliers à louer. Est-ce que la mairie de Paris, comment la mairie de Paris pourrait agir pour inverser cette tendance, faire revenir les familles,
Le sujet, c'est qu'il y a toujours à peu près le même nombre de familles qui s'en vont, il n'y en a pas plus avant qu'ailleurs. D'ailleurs, Paris est très attractif, c'est encore à Paris que le prix de l'immobilier est plus élevé. Notre gros problème, c'est en fait l'augmentation du nombre de résidences secondaires à logements vacants, qui augmente de 7000 par an. Ce qui fait qu'on perd 8000 logements du parc locatif privé par an depuis 10 ans. Donc on a 80 000 en 10 ans. Donc c'est ça le sujet. C'est le premier sujet. Il y a aussi Airbnb, mais le premier gros sujet, c'est que beaucoup de propriétaires qui ne louent pas ou qui utilisent par une résidence secondaire ou ils ne viennent quasiment jamais. Donc on essaye de les inciter. On a un dispositif louer solidaire. Vous pouvez donner votre logement à louer. On vous garantit un loyer. On vous le perçoit. On vous rénove votre logement. Enfin voilà. Mais on voit que malgré tous nos efforts, il y a peu de propriétaires nouveaux. Il y a 1300 logements qui sont loués comme ça. Mais on n'arrive pas à en capter beaucoup plus. Donc à un moment, malheureusement, et on a déjà fait le constat depuis longtemps, seulement l'outil fiscal peut réussir à convaincre les gens de ne pas laisser leur logement vide. Donc c'est pour ça que c'est suite à ma proposition ainsi que celle d'Yann Brossaille, il y a 10 ans, on a créer une taxe sur les résidences secondaires. Et on le dit très clairement, on se bat pour augmenter le niveau de cette taxe, pour pousser les gens à louer, parce que s'il y avait 1000 propriétaires qui laissaient leur appart vide, c'est pas un problème. Mais là, on en est à 270 000. Donc ça devient un problème massif et un problème de logement et même un problème pour l'économie. Moi, j'ai discuté avec Jean Castex, PG de la RATP. Il a des problèmes pour recruter, il n'a pas assez de bus aussi parce qu'il n'a pas assez de conducteurs de bus qui ont des logements. Donc le fait qu'il y ait tous ces logements vides, ça devient insupportable. Donc notre bataille, c'est auprès du gouvernement. Alors, il a augmenté la taxe sur les logements vacants l'an dernier de 17%. On le pousse à l'augmenter plus et à augmenter la taxe sur les résidences secondaires pour convaincre des dizaines de milliers de propriétaires. On estime qu'il y aurait au moins 100 000 logements qui pourraient revenir sur le marché et avec ces outils fiscaux. Donc voilà, nos deux revendications, c'est aider les copropriétaires, en particulier de passoires thermiques, donc on demande à l'État de multiplier par deux, en gros, les aides pour les rénovations de passoires thermiques, et puis nous aider à ce qu'il y ait plus de logements à louer en augmentant les taxes sur la vacance. Tu vois que c'est deux mesures qui ne dépendent pas de nous, parce que nous, la ville investit énormément pour le logement, on a 625 millions d'euros pour produire des logements sociaux, pour rénover les logements sociaux, pour aider les copropriétaires à rénover leur privé. C'est, par exemple, pour le budget de la ville, c'est 120 millions d'euros de plus que l'an dernier, 100 millions d'euros de plus qu'il y a deux ans. Donc, la ville de Paris investit énormément, mais le problème, c'est que le marché privé ne se régule mal, et notre sujet, c'est on a besoin de mesures d'État urgentes, parce que là, la dynamique actuelle, c'est la baisse du parc locatif privé qui baisse à un rythme vraiment très alarmant, et il faut que l'État intervienne.
Eh bien écoutez, on vous souhaite de parvenir à tous ces objectifs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Jacques Baudrier.
Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est
un
plaisir.
Et donc, je rappelle que vous êtes adjoint au logement de la mairie de Paris, transition écologique du bâti. Merci à tous, ciao ciao.
1000 millième, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.